il se trouve tout de même que dans certaines situations comme Tchernobyl, le dégagement d'énergie était bien supérieur à 1000 mégajoules, donc bien supérieur aux 800 qui ont été pris en compte. Alors, toujours pareil, il ne s'agit pas de la même installation. Néanmoins, là encore, pour Tchernobyl, dans les calculs, il n'était pas prévu que l'énergie libérée soit de 1000 mégajoules. Donc on fait l'expérience en vraie grandeur avec des hypothèses de calcul, qui sont des hypothèses de calcul, mais non pas des expériences sûres.
Deux des 20 situations accidentelles hypothétiques ont déjà eu lieu.
Oui, ça c'est un des gros problèmes. Je ne veux pas faire de catastrophisme, c'est-à-dire que les accidents qui sont produits à Superphénix ne sont pas des accidents qui ont entraîné des dégagements de radioactivité. Je dirais même que ces accidents étaient d'une certaine manière pris en compte par le rapport de sûreté, c'est-à-dire qu'il y avait des mesures de sûreté pour les maîtriser, ces accidents. Néanmoins, ils sont classés parmi les accidents hypothétiques. Deux accidents hypothétiques se sont produits sur la vingtaine d'accidents hypothétiques qui sont classés dans le rapport de sûreté.
Hypothétique,
c'est-à-dire dont la fréquence, la probabilité était de 10-4 à 10-6. Alors pour caricaturer, ça n'est pas exactement ce qu'on explique en termes de probabilité, mais pour caricaturer, il était prévu qu'il puisse se produire une fois tous les 100 000 à une fois tous les 1 million d'années. Bon, c'est pas tout à fait la logique de la probabilité, mais enfin, disons pour schématiser. Et donc ils étaient classés comme extrêmement improbables. Le premier, à savoir la fuite de sodium du barillet de stockage des combustibles, s'est produit le 8 mars 87, 3 mois après la pleine puissance. Et le second, qui est la chute d'un élément de 1300 kg, là où il était prévu que seulement un parpaing de 10 kg tombe, s'est produite le 2 octobre 89.
Alors, première réaction. Je suis sûr que ce sont des objections, des arguments que vous connaissez par cœur, mais il faut jouer le jeu avec nous parce que il faut faire comprendre aux auditeurs.
Oui, non, je ne connais rien par cœur du tout. Ce qu'il y a, c'est dans la tonalité de ce discours, bien qu'il soit très prudent, j'y relève toujours la même volonté de faire croire que nous sommes des technocrates absolument sûrs de nous, et qu'on considère tout incident comme impossible. Or, ce que j'ai remarqué dans le discours de M. Avrier, c'est qu'à un moment, il a dit, et il insiste toujours, c'est considéré comme hypothétique, il a dit, il considère cet incident comme impossible. Et puis, une minute après, alors il parlait de l'accident, en gros, de l'explosion du réacteur. Et puis, une minute après, il a dit, l'État lui a imposé de faire face à cet accident. Alors, il faut se mettre d'accord. Ou on ne l'a jamais pris en compte parce qu'on le considère comme impossible, où l'État nous a obligés à le prendre en compte. Oui.
Mais à ce propos, il précise que pour Tchernobyl, on a fait des calculs, qu'on avait prévu que la puissance supportable, on avait prévu certains chiffres, ils ont été dépassés lors d'un accident qu'on pensait impossible.
Sur un autre type de centrale.
Et par ailleurs, oui. des accidents hypothétiques comme la fuite de sodium du 8 mars 87, comme la chute d'une grue sur le dôme, c'était en octobre 89, oui. Est considéré comme hypothétique.
Non, mais ça veut rien dire.
Il peut se passer des événements peu probables. Oui. Qui pourraient...
Mais si vous voulez, là, il faut sortir de ces problèmes de probabilité. Parce que les probabilités ont surtout un rôle lors de la conception de la centrale. Ce qu'on essaye de voir, c'est si les systèmes qui sont conçus, réalisés, sont bien homogènes, c'est-à-dire si... A priori, ils vont répondre à l'attente qu'on a d'eux en matière de sûreté. Mais un exploitant nucléaire, et c'est pour ça que, à mon avis, il faut sortir un peu de ces choses-là, un exploitant nucléaire, lui, on ne lui demande pas de discuter de probabilité. On lui dit, si l'accident arrive, même s'il a une probabilité très faible, une fois toutes les 10 minutes, une fois tous les millions d'années, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que vous faites pour faire face à cet accident? Or, ce qui est important d'expliquer au public, c'est que nous n'avons jamais dit que quoi que ce soit était impossible. Même si on dit, eh bien, c'est un événement qu'on espère hautement probable ou peu probable. Alors, en ce qui concerne l'accident d'explosion du réacteur, contrairement à ce qui s'est passé à Tchernobyl, parce qu'à Tchernobyl, je ne sais pas ce qu'ils ont calculé, je ne l'aurais jamais demandé, Mais ce qu'il faut voir, c'est que la communauté internationale scientifique travaille sur ces problèmes d'accidents graves, d'accidents majeurs dans les surgénérateurs. Et que ce sont des accidents qui sont bien connus.
Voilà. C'est-à-dire le type d'accident pouvant se produire sur un surgénérateur.
Alors, et c'est même des accidents, on ne sait pas comment ils pourraient se réaliser physiquement, parce qu'il faudrait la conjonction de choses absolument extraordinaires. Je vais vous expliquer quel est l'accident qu'on a pris, qui enveloppe de tous les autres. On considère qu'à un certain moment, les quatre pompes qui refroidissent le réacteur s'arrêtent. Au même moment, il faut qu'elles s'arrêtent au même moment, sinon c'est pas du jeu et c'est trop simple. Et comme un incident et un malheur n'arrivent jamais seuls, on considère que les trois systèmes complètement indépendants et complètement autonomes d'arrêt du réacteur ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que vous êtes avec un réacteur pleine puissance, les quatre pompes de refroidissement s'arrêtent brutalement et vous perdez complètement le contrôle du réacteur parce que les barres ne tombent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive de pire dans un réacteur? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la température va monter lentement parce qu'il y a 3500 tonnes de sodium, 3000 tonnes d'acier. Les phénomènes sont très très lents. Et on considère que pendant environ 20 minutes, l'exploitant est un parfait imbécile, il n'a rien vu, il n'a rien compris, et il ne fait aucune action intelligente et appropriée. Au bout de 20 minutes, ce qui va se passer, c'est que le sodium va commencer à bouillir, et il y a effectivement un effet de vide qui se produit, qui fait que au lieu d'avoir un endroit du sodium, vous avez de la vapeur de sodium, et la réaction va s'accélérer à cet endroit. Eh bien, c'est quelque chose qui est connu, et il est connu avant qu'on ait conçu le réacteur. Donc, on a pris cette affaire-là en compte. Et ce qui va se passer, c'est que le réacteur, le cœur du réacteur, va se détruire. Et la réaction va donc s'arrêter, puisqu'il va y avoir dispersion des produits de fission. On considère qu'une fois qu'il s'est dispersé, il peut encore se rassembler et réexploser une deuxième fois. Bien. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des codes de calcul, mais que ces codes de calcul, ce n'est pas des vues de l'esprit. Ils sont validés par des expériences qui sont faites dans des réacteurs, en particulier un réacteur qui est en France, s'appelle Cabri, au centre de recherche de Canaranges, et que dans ce réacteur, on simule, c'est-à-dire qu'on produit effectivement la destruction, l'explosion d'éléments combustibles. Alors évidemment, on ne prend pas un cœur entier parce que bon, on ne va pas s'amuser à ce genre d'affaires-là, mais ce que nous sommes sûrs, et la communauté internationale est tout à fait d'accord sur ces choses-là, y compris le professeur Benneke qui a fait une expertise indépendante, on en parlera aussi si vous voulez, sont d'accord pour dire que l'explosion telle qu'elle a été prise en compte par l'exploitant a une énergie qui est conforme à ce qui pourrait se passer dans cet accident-là. Voilà. Et tout le problème de Crémalleville est de savoir, et nous, notre réponse elle est affirmative, c'est de savoir si toutes les enceintes dites de confinement qui sont placées autour du réacteur eh bien, sont capables de résister à l'énergie dégagée par cette explosion. Parce que les explosions ne détruisent pas forcément quelque chose, hein. Une voiture, il y a un moteur à explosion et les voitures, elles n'explosent pas à tous les coins de rue, en plus de raison, leur conducteur. Donc, il y a des explosions qu'on arrive à contenir dans des enceintes. C'est le cas de Crémalleville.
Pierre Schmitt, il y a des conditions, en tout cas physiques, dans cette centrale, qui est liée au sodium, qui fait que le sodium s'enflamme au contact de l'air. Alors, il y a une chose qui...
Oui, mais pas spontanément.
Pas spontanément, oui. Bien sûr.
C'est inscrit en faux.
Mais...
peu importe.
Non, mais c'est pas du tout... sur ce point, je voulais en venir. Il y a quelque chose qui, moi, m'étonne, parce que, de toute façon, vous êtes, je crois, par définition, maître d'œuvre d'une technique dangereuse, et qu'après tout, vous êtes sous vigilance tout le temps. D'ailleurs, ça doit être même assez difficile psychologiquement pour vous d'être sous surveillance tout le temps.
Non.
Alors, je vais vous dire, en tout cas...
Non, parce que c'est pas une technique qui est plus dangereuse qu'une technique ordinaire. Non.
Peut-être pas plus dangereuse que certaines techniques chimiques, mais
comme
vous, les gens des
centrales... La psychose, là.
Alors, je crois que dans l'opinion publique, vous êtes l'objet d'une vigilance particulière.
Tout à fait.
Et qui est certainement plus importante que celle qui peut porter sur des directeurs d'usines de produits chimiques plus standards, disons. En tout cas, concernant ce sodium, voilà un de mes étonnements que je peux vous proposer. On sait éteindre les feux de sodium. Et lorsque nous avons été vous rendre visite, vous nous avez dit que vous étiez agacé, à juste titre d'ailleurs, par les arguments des écologistes, qui disait, voilà, dans les centrales, ils savent éteindre des feux. Alors, je me souviens plus du chiffre, donc
quelques
je vais dire une bêtise. Bon, voilà, maintenant, alors, on sait que dans les centrales, les techniciens du nucléaire savent éteindre du sodium quelques dizaines de kilos. Bon.
Centaines.
Ou centaines.
Oui,
bon. Alors, je vous parle de cette affaire, et vous me répondez. Très justement, vous étiez agacé parce que vous aviez testé sur quelques centaines de kilos de sodium enflammé, un produit chimique qui a une capacité d'éteindre ce type
d'enflammement. Mm-hmm. Le problème, et mon objection n'est venue qu'après, c'est que je me suis dit de quand datait cette expérience et pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas été menée avant et pourquoi elle n'avait pas été menée sur une échelle plus importante pour foudroyer les arguments des écologistes qui pouvaient l'utiliser. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il semble que vous ayez attendu aussi longtemps pour avoir une maîtrise complète des feux de sodium? C'est une question.
Alors, le problème ne se pose pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça.
Il ne se pose jamais comme ça, mais c'est comme ça qu'il se présente dans mon esprit.
C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il est colporté dans l'esprit de l'opinion publique. Un feu...
Pas tout à fait.
Oui, attendez, je vous dire. Un feu, il y a plusieurs façons de l'étouffer. De l'éteindre, pardon. Il y a, et c'est très simple, si vous voulez éteindre un feu, vous pouvez supprimer l'oxygène. C'est-à-dire que si vous enlevez l'oxygène, eh bien, il ne peut plus y avoir de feu, puisqu'il n'y a plus de combustion possible. Donc ça, c'est un des principes, c'est étouffer le feu. Bien. Un jour, on a expérimenté une poudre qu'on étend sur un feu de sodium, et on en a étendu une tonne à 500 degrés, et puis on a testé l'efficacité de la poudre. D'une manière malveillante, les gens, au lieu de dire « cette poudre marche, ils ont éteint un feu d'une tonne », ils ont dit « ils ne savent pas éteindre un feu de plus d'une tonne ».
Oui, mais bien sûr,
c'est ce que j'ai dit. Alors maintenant, je vous dirais, on éteint des feux de l'importance que vous voulez, parce que si vous avez un circuit qui contient, mettons, 300 tonnes de sodium...
J'ai compris, bien sûr.
Vous vidangez le circuit, une casserole qui fuit, vous la videz, il n'y a plus d'eau dedans, et bien la casserole ne
vient plus. Bien sûr. J'ai compris, Pierre Schmitt, c'était simplement, je passe la parole à Anita Castiel pour sa question, c'était simplement pour vous dire, à quelle date ont été faits ces tests?
Il y a une dizaine d'années, plus même.
Pas depuis que cette centrale existe?
Pas du tout, mais non.
D'accord.
On ne serait pas permis de construire une centrale si on n'avait pas eu une poudre.
La maîtrise des feux de sodium avec la poudre.
Bon, on n'aurait jamais été autorisé à construire et à exploiter une centrale pareille.
Anita Castiel.
D'accord. J'avais une petite question à propos de cette fuite de sodium, justement. C'était produit dans la cuve principale du barillet de stockage.
Oui.
Il s'est produit le 8 mars 87. Elle a entraîné l'arrêt de la centrale pendant 2 années. Mm-hmm. Je voulais vous demander, est-ce qu'on connaît la cause, les causes profondes de cette avarie grave?
Je répondrai à 99%, on connaît les causes, oui. C'est le choix, enfin un mauvais choix d'un acier, surtout de la manière dont cet acier a été mis en avant. C'est un acier, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais c'est un acier qui se fragilise en présence d'hydrogène. Et on s'est aperçu, un peu tard, mais tant pis pour nous, que cet acier était à proscrire avec l'utilisation du sodium. Et du reste, c'est un acier sur lequel on a eu des déboires, enfin pas nous, mais d'autres personnes, sur une centrale solaire à Almeria, sur la centrale nucléaire de Calcar, etc.
Et tant pis pour vous et tant pis éventuellement pour nous aussi. Je voulais savoir aussi pourquoi cette fuite avait été annoncée 26 jours après l'accident.
Oui, alors c'est toujours un reproche qu'on nous fait, mais lorsque vous avez un feu ou une fuite, eh bien, contrairement à ce qu'on s'imagine, il n'y a pas d'action immédiate à entreprendre, parce que, en particulier, la cuve du barillet, donc qui fuyait, était à l'intérieur d'une deuxième cuve qui servait de rétention. Et le tout était placé dans un puits en béton. Tout ça était parfaitement inaccessible. Et c'est souvent une image un peu triviale que j'utilise, mais je crois qu'elle est assez juste. C'est comme si vous aviez une fuite sur une chambre à air et que la voiture est à l'intérieur d'un garage. Et vous n'avez pas le droit de démonter le pneu et vous n'avez pas le droit de rentrer dans le garage pour vous apercevoir que ça fuit. Ben, vous mettrez un certain temps avant de vous en rendre compte.
Il semblerait que les alarmes aient fonctionné dès le début. Vous avez d'ailleurs rendu public il y a deux ans après.
Oui.
La façon dont c'est déroulé...
Non, pas deux ans après, tout de suite.
Tout de suite après. Oui. Donc toutes les alarmes ont fonctionné, mais on a pensé que c'était les alarmes qui dysfonctionnaient.
C'est pas tout à fait ça. Lorsque vous avez une alarme incendie, imaginez un immeuble, vous avez toujours une centralisation des alarmes incendie. Eh bien, lorsque une alarme, c'est un voyant rouge s'allume en disant, par exemple, tel détecteur, il y a quelque chose. Eh bien, l'action du surveillant n'est pas d'appeler les pompiers, l'action du surveillant consiste toujours à aller se rendre sur place pour voir s'il s'agit ou non d'une alarme intempestive ou au contraire d'un feu réel. Parce que les détecteurs d'incendie, ce sont des détecteurs qui sont sensibles non seulement aux fumées dues aux incendies, mais qui sont sensibles aux poussières, aux fumées de cigarettes, à quelqu'un qui soude. Et vous avez, et ça c'est pas propre à Crémalville, c'est toutes les alarmes incendies, vous avez environ des milliers d'alarmes intempestives pour une alarme réelle.
Et plusieurs donc, alarmes ont fonctionné.
Pardon et... Non, il n'y en a qu'une. Non, il n'y en a qu'une.
Je peux comprendre que plusieurs alarmes à plusieurs jours d'intervalle ont fonctionné, puis qu'on s'est rendu compte, je crois, 8, 10 jours, voire 26 jours après, je ne sais, qu'il y avait 20 tonnes de sodium qui avaient fui.
Oui, mais parce que c'est toujours le problème que j'évoquais tout à l'heure. Il faut, pour confirmer qu'il y avait une fuite de sodium, il a fallu aller voir entre les deux cuves. Donc la première chose que nous avons faite, c'est avec des automaticiens, de voir s'il ne s'agissait pas d'un défaut d'électronique, parce que là, on est allé effectivement sur place, mais autour on pouvait rien voir. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de fumée, il n'y avait rien. Donc ne constatant rien, eh bien on s'est orienté donc vers une défaillance électronique. Et c'est suite aux différentes vérifications que nous sommes aperçus qu'il ne s'agissait pas d'une alarme intempestive, mais effectivement d'une. Oui, mais c'est sûr que cette alarme n'a pas été traitée avec toute la diligence voulue. Nous l'avons reconnue publiquement et nous avons pris les mesures depuis ce temps-là. On peut être étonné aussi des explications que vous venez de donner, d'abord parce que ce sont des explications techniques difficiles, mais si je vous ai bien suivi, il y a donc un moment d'expectative avec des moyens, des capteurs, donc des moyens d'information. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de présence manifeste de feu important, et vous êtes dans l'atermoiement, ou dans l'expectative plutôt, en train de vous dire, est-ce que le sodium est vraiment là? Est-ce que c'est le capteur qui a bien fonctionné? Ou est-ce que le capteur nous dit une bêtise? Est-ce que ça, c'est une caractéristique de tous les systèmes complexes?
Non, absolument pas. Non, pas du tout.
Et qui dépasse même le nucléaire?
Non, pas du tout. Il est bien évident que lorsque vous avez une fuite de sodium sur le barillet, ça ne concerne pas, a priori, ou tout au moins dans un court terme, la sûreté nucléaire. Par contre, si vous avez un problème qui se passe sur la partie proprement nucléaire de la centrale, c'est-à-dire sur le réacteur, par exemple une température anormale, un débit de sodium anormal, eh bien, à ce moment-là, on se pose absolument aucune question. Vous avez des automatismes, parce que bon, l'action doit être, même si elle doit être rapide. Donc, vous avez trois capteurs. En règle générale, les systèmes de sécurité sont constitués de trois capteurs qui font trois mesures différentes, et on compare ces mesures. Et par exemple, dès que deux mesures sont d'accord, on entreprend une action automatique. Et là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de jugement à porter, de savoir s'il s'agit ou non d'une fausse alerte en allant en local. Mais je le répète, en ce qui concerne l'incendie et les fuites de sodium, nous avons le temps, et c'est la consigne, d'aller voir. Mais je le répète, sur des parties proprement nucléaires, il y a une action immédiate qui est entreprise par les automatismes. Donc ça n'a rien à voir.
Quelle solution pour remplacer le barillet? Parce que je crois que maintenant, ça va être une autre centrale. Est-ce qu'il y a encore un rapport de sûreté valable?
Le grand feuilleton du barillet de Crémalville.
Il y a un chantier, je crois que la centrale a eu le droit de redémarrer avec un chantier tout près du cœur qui est la zone sensible. Rassurez-moi.
C'est taché. Là aussi, on a dit ils suppriment le barillet. Alors, évidemment, on passe pour des doudingues parce qu'on dit quand même, ces gens-là, ils ont construit un barillet qui a coûté fort cher. Ils ont un ennui dessus. Et puis, bon, c'est pas grave, on l'enlève, on va faire autre chose. Bon, c'est pas du tout ça. Présenté comme ça, on a l'air d'imbécile, effectivement. Mais en réalité, le barillet, il a deux fonctions. Il a une fonction qui est d'assurer, c'est pas le cœur, hein, le barillet, c'est un engin qui est à côté. Il a pour fonction d'assurer les opérations de chargement et déchargement, donc de transit des éléments combustibles neufs vers le réacteur. Donc c'est une fonction purement mécanique. Et la deuxième fonction, lorsqu'on sort les éléments irradiés, donc ils ont une radioactivité assez importante, ils dégagent une énergie qui elle aussi est importante, et ces éléments, on ne peut pas les sortir directement dans l'air. Donc on va il était prévu initialement de les laisser dans le barillet pendant un certain nombre de mois, entre 6 et 9 mois, de façon à ce que leur puissance résiduelle, donc leur radioactivité, décroisse, et lorsque cette puissance était suffisamment faible, eh bien là il était possible de les sortir en gaz et de les évacuer à l'extérieur. Donc la fonction du barillet était double. Assurer des opérations d'entrée et de sortie, donc du transit mécanique. Et la deuxième fonction, c'était pendant quelques mois d'assurer le refroidissement des éléments combustibles. Et du fait de ce refroidissement, il fallait que les éléments restent en sodium. Eh bien, nous avons adopté une autre solution,
mais on remplit toujours ses fonctions de chargement, déchargement et de refroidissement. Rien n'est changé là-dessus. Et l'idée est d'adopter la solution qu'on aura adoptée pour les surgénérateurs futurs, c'est-à-dire que la fonction de stockage, on la réalise à l'intérieur du réacteur, on arrête le réacteur lorsque le combustible est usé, on laisse le tout en l'état pendant plusieurs mois, donc le combustible se refroidit à l'intérieur du réacteur, et lorsque la puissance est suffisamment faible, la puissance résiduelle est suffisamment faible, eh bien ces éléments combustibles, on peut les sortir directement en gaz. Et le nouveau barillet, c'est simplement un sas en gaz, il n'y a plus de sodium dedans, qui assure donc le passage des éléments vers l'extérieur sans stockage, comme précédemment. Donc on a réparti la fonction de l'ancien barillet entre le réacteur et une espèce de sas, un réservoir en gaz. Voilà.
Il n'y a pas l'analogue de la piscine d'une centrale comme une centrale PVR de Flamanville, donc.
Si, ultérieurement, les éléments combustibles, une fois qu'ils sont sortis donc à travers le nouveau barillet, qu'on appelle le poste de transfert de combustible, on le lave, donc on le débarrasse du sodium qu'il peut encore contenir, c'est environ 1 à 2 kilos peut-être, et lorsque cet élément est débarrassé de son sodium, après on va le déposer dans une piscine sous eau, où il finit de refroidir.
Petite question qui est une question de terminologie et puis peut-être de communication aussi. Explosion nucléaire, pourquoi excursion nucléaire? Pourquoi ce terme un petit peu pudique? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'explosion nucléaire?
Vous remarquerez tout à l'heure que je n'ai pas dit excursion, j'ai dit explosion.
Oui, mais oui, pourquoi, c'est pas vous qui le dites, mais pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme d'excursion nucléaire? Est-ce que c'est une manière pudique de...
Pour un dégagement brutal d'énergie, excursion, oui, ça fait un peu promeneur.
Oui.
Non, bon... moi, ça me dérange pas de parler d'explosion. Une explosion, comme je dis tout à l'heure, ça peut être contenu à l'intérieur d'une enceinte. À partir du moment où elle est conçue et calculée pour résister à cette explosion, ça me dérange pas de parler d'explosion. Mais effectivement, jusqu'à présent, on dit excursion. Allons-y pour explosion.
Oui. J'ai vraiment l'impression qu'à Crémel-Ville, on est en pleine expérience parce que vous avez trouvé une nouvelle solution pour le barillet, mais vous avez tâtonné. Il semblerait que vous ayez d'ailleurs trouvé entre-temps envisagé une autre solution qui réutilisait une des cuves douteuses du barillet qui avait été endommagé.
Non, non, on n'a pas tâtonné, là. Vous êtes sévère, là, avec nous.
Ça, rassurez-moi encore une fois.
Elle avait décidé de se faire l'avocat du diable, hein. Elle doit être sévère, Anita Castiel.
Elle a raison, elle a raison.
C'est le jeu, hein.
Oui. Non, là aussi, c'est trop facile de dire qu'on a tâtonné. Et au début, il y avait deux solutions possibles. À partir du moment où le nouveau barillet, nouvelle mouture, ne contenait plus de sodium, mais simplement du gaz à la pression atmosphérique, on ne demande aucune caractéristique mécanique de résistance quasiment à ce nouveau réservoir. Et une des idées qui a été retenue à l'époque était de dire pourquoi ne pas réutiliser non pas la cuve du barillet, mais la cuve de sécurité du barillet, la cuve de rétention qui était placée autour, parce que cette cuve éventuellement pouvait être, elle était en bon état puisqu'elle avait contenu le sodium.
Bien sûr.
Donc on pouvait simplement enlever le barillet de sa cuve de sécurité, se servir de la cuve de sécurité comme nouveau sas. Mais nous avons décidé que c'était une solution qu'il fallait a priori rejeter, parce que d'abord elle était guère plus économique que celle qu'on a adoptée. Et pourquoi n'était-elle pas plus économique? Parce que premièrement, il fallait démonter le barillet, ça demandait quand même plusieurs mois. Ensuite, une fois que le barillet était démonté, il fallait faire des contrôles extrêmement minutieux qui coûtent fort cher et qui auraient duré très longtemps sur la cuve de sécurité pour s'assurer qu'elle était en bonne santé et qu'elle était donc capable de servir. Et il aurait fallu également démontrer que non seulement elle était en bonne santé aujourd'hui, mais qu'elle resterait en bonne santé au moins pendant encore 20 ou 30 ans. Et là, il y avait un pari à faire. Et si, après démontage du barillet, contrôle, on arrivait à une impasse, et bien on aurait perdu un an, peut-être même plus, dans une impasse. Donc on n'a pas pris ce risque de perdre éventuellement un an, et on a décidé donc de faire ce poste de transfert de combustible dont je vous parlais tout à l'heure.
Pierre Schmitt dit, 1000 questions, le temps tourne malheureusement, il faut tellement plus de temps pour pouvoir faire une émission complète sur le sujet.
J'essaie de rassurer madame.
Bien sûr. je voudrais aborder un certain nombre de questions générales maintenant, Pierre Schmitt. Je ne sais pas si vous êtes... tout à fait habilité à répondre. Vous êtes le chef de la centrale de Crémalville et ce sont des questions d'ordre plus général. Cela dit, il y en a qui s'adressent directement à ce type d'installation. Il semble d'abord beaucoup de pays européens ont des programmes nucléaires ralentis, sinon complètement stoppés. Beaucoup de pays européens ont décidé de ne plus utiliser l'énergie du nucléaire. Vous êtes sur un spécimen, vous êtes sur une, Vous êtes sur une installation qui est absolument unique, en tout cas en Europe. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous travaillez une technique intéressante, mais malheureusement qui est sur une voie de garage, comme aurait pu le dire d'ailleurs...
Oui, il l'a dit, il l'a dit.
Oui, Pierre Avrier, mais comme d'autres le disent, hein, comme on peut se demander aussi.
Enfin, il a dit que c'était une fin de génération, mais après, il l'a dit pour l'instant.
Oui.
Oui, alors, il y a effectivement beaucoup de pays européens qui affichent l'intention de ne plus avoir recours au nucléaire. J'aurais en cité deux, parce que l'exemple me paraît très bon, c'est en particulier l'Italie, et un autre, la Suède. Eh bien, si vous lisez la presse, et je ne doute pas que vous le fassiez, vous apercevrez que ces gens ont des états d'âme. C'est-à-dire qu'en Suisse, en Suède, il y a eu un référendum qui demande l'arrêt progressif des centrales nucléaires. Et les socialistes qui étaient à l'origine de ce référendum, donc qui étaient pour l'arrêt, eh bien, il y a 90 députés socialistes qui, au moment effectivement d'arrêter les centrales, se posent des questions. Parce qu'il n'est pas question de brûler plus de fioul. Le charbon, c'est rigoureusement interdit. L'hydraulique, il ne faut pas en faire parce qu'il faut conserver aux rivières sauvages leur état actuel. Donc ces députés disent, bon, arrêter le nucléaire, c'est bien, mais le remplacer par quoi? Or, ils disent, tant qu'il n'y a pas de substitution fiable, ce qu'on peut toujours dire, mais il faut faire après, eh bien, il n'est pas raisonnable d'arrêter. Le deuxième exemple, c'est l'Italie, alors qu'on connaît très bien, puisque... Contrairement à ce qui se dit, nous travaillons toujours avec des Italiens, ils sont toujours là. Et l'Italie également a arrêté brutalement, du jour au lendemain, de faire fonctionner ses centrales nucléaires. Et aujourd'hui, l'Italie importe environ 31 milliards de kilowattheures d'électricité. Ça correspond à la production d'environ 5 centrales nucléaires. Donc elle importe. Elle importe massivement de partout. Et à l'heure actuelle, ils ont d'énormes difficultés d'alimentation, en particulier dans le sud. Et si vous avez lu un article du Monde, je crois qu'il datait du 18 novembre, eh bien, cet article dit qu'à l'heure actuelle, on reparle de redémarrer le nucléaire parce que, là aussi, apparemment, ils sont dans une impasse. Anita Castiel.
Certains disent même que le nucléaire est une énergie très propre.
Si vous le dites.
Je ne le dis pas, je dis certains disent. Je ne suis pas forcément d'accord.
Il y a une autre question d'ordre encore général... Pierre Schmitt, qui est la suivante quand même. Je pense que Anita Castiel aurait parlé du débat qui se tient à Paris sur l'énergie, je crois que vous y avez même assisté.
Oui.
Vous êtes un technicien du nucléaire, mais est-ce que c'est quand même une technique indépendamment de toute position partisane? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est une énergie, c'est une source d'énergie le nucléaire, qui est en tout cas le produit d'une technique qui est difficile, d'une technique qui peut être dangereuse, comme d'autres d'ailleurs, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que de façon... démocratique, il n'y a pas eu un vrai débat sur les sources d'énergie. Et je vous pose cette question de façon générale, mais que je pourrais compléter par celle-ci immédiatement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment en France, comme dans d'autres pays, que pas suffisamment de fonds de recherche ont été rendus disponibles pour que des scientifiques ou des techniciens travaillent vraiment et efficacement à la création de nouvelles possibilités techniques de sources d'énergie qui ne soient pas le nucléaire? Voilà. C'est pas une question anti-nucléaire, c'est simplement une question de la diversité possible des sources d'énergie.
Ouais, il m'est difficile de répondre à cette question, c'est pas moi qui distribue les crédits.
Oui, mais je suis curieux de votre réponse.
Oui, oui.
Parce que, est-ce qu'on doit vous considérer comme un pro-nucléaire tout craint? Certainement pas.
Non, absolument pas.
Voilà,
non,
c'est pour ça que
non,
je vous la pose.
Non, enfin, moi je suis un petit peu étonné, parce qu'il y a eu un débat à l'Assemblée, ce matin, à l'Assemblée nationale, j'y étais, et... il y a un chiffre qui me paraît absolument extraordinaire. C'est dans son préambule, donc le ministre de l'Industrie, M. Fourreau, a expliqué que depuis 10 ans, en France, on a réussi à économiser par an 100 millions de tonnes de pétrole. C'est-à-dire que si on n'avait rien fait, si on était toujours dans la situation d'il y a 10 ans, on consommerait 100 millions de tonnes de pétrole de plus par an. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces 100 millions de tonnes qu'on ne consomme pas aujourd'hui, qu'on ne brûle pas, eh bien, comment se répartit-elle? Il y en a 60 qu'on ne brûle pas parce qu'on fait du nucléaire, mais il y en a 40 qu'on ne brûle pas parce qu'on a fait des économies d'énergie.
Oui,
bon.
Bien sûr.
Et je crois que la source la plus extraordinaire aujourd'hui, eh bien, ce sont les économies d'énergie. Bon, parce que on nous oppose toujours en disant, mais vous prenez tous les crédits, il n'y en a que pour vous, vous étouffez tout le monde, mais c'est ridicule de dire des choses comme ça. La preuve, c'est que sur 100 millions de tonnes, il y en a 40, c'est les économies d'énergie, et 60, c'est le nucléaire. Bien. Maintenant,
si les autres énergies, les énergies renouvelables ne se développent pas, ou mal, ou ont des difficultés, il ne faut pas en accuser le nucléaire. Il faut voir que des pays qui n'ont jamais fait nucléaire ou qui ont abandonné le nucléaire, eh bien, ne sont pas tellement plus avancés que nous.
Pierre Schmitt, malheureusement, il faut qu'on passe à nos actualités, et elles vont être induites parce qu'on a... À l'ordinaire, on a des correspondants, à l'ordinaire, on a des débats plus courts, et cette fois, à Bourg-en-Bresse, ce débat sur générateur me laisse encore sur ma faim, il faudrait continuer. Plein de questions, en tout cas, il faut maintenant qu'on passe au bref, on en a retenu une, Aïta Castiel, je trouve qu'elle est intéressante. Est-ce qu'on doit la considérer comme totalement sûre? En tout cas, il semble que maintenant, les Irakiens disposent de fusées capables de mettre des satellites en orbite autour de la Terre. Les déchets du nucléaire.
Oui, oui.
Donc là, c'est à proximité.
Écoutez, comme tout le monde, je lis les recherches effectivement effectuées par l'ANDRA, et puis l'émotion que provoquent ces recherches. Oui. J'aurais cité une anecdote en parlant de stockage de sel. J'ai eu l'occasion, enfin quand j'étais beaucoup plus jeune, de voir un stockage. À l'époque, c'était des réserves stratégiques de pétrole qui se faisaient au-dessus de Manosque, Géosel. Et j'ai vu récemment que les pétroliers, donc il n'y a plus lieu d'avoir ces réserves stratégiques, tout au moins comme elles existaient dans le temps, et qu'apparemment il y a l'air d'y avoir un consensus, même des populations locales, pour transformer ces stockages de pétrole en stockage de déchets chimiques.
Dernière question, Pierre Schmitt, il faut qu'on se quitte, est-ce que vous êtes pêcheur?
Devant l'éternel, oui, certainement.